L'épître de Paul aux Romains.
Seigneur, viens nous rendre attentifs à ta parole. Je vous lis dans Romains 5, du verset 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Je répète, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie?
Nous prions. Seigneur, à qui d'autre irions-nous que toi? C'est toi qui as les paroles de vie. Que ton esprit nous conduise maintenant, dans ce temps de la prédication, pour que ta vérité, et non pas la nôtre, rejaillisse. Amen. Alors, je vous ai lu tout ce passage, mais en fait, il n'y a qu'un verset qui m'intéresse. J'essaie bien de mettre le contexte un peu, c'est... Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Il nous a prouvé son amour. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs et cela nous prouve l'amour de Dieu. C'est sur ça que je vais parler. Alors Maë a reçu le baptême, un sacrement ancien par lequel le nom de Dieu des chrétiens est invoqué sur sa vie, un sceau. Dieu lui fait, par amour, la promesse de la conduire jusqu'à la résurrection des morts pour vivre la restauration du monde selon son ordre des choses à lui, parce qu'il y en a qui auront remarqué certainement qu'on a un monde magnifique, mais qui est brisé, qui marche mal, où les choses sont toujours teintées de souffrance. Le texte que nous avons lu parle de ce projet de Dieu de sauver les humains, de ce monde brisé, pour leur donner accès à la restauration du monde par la résurrection des morts. On va avoir accès à ce monde nouveau en ressuscitant. Et ce texte nous parle aussi de deux réalités, deux choses puissantes partout, mais puissantes aussi dans la foi chrétienne, qu'on connaît tous très bien. Je vais parler de l'amour et de la justice. L'auteur Paul nous parle de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. Il dit que Dieu nous montre son amour pour nous en nous délivrant quelque part de sa justice. Il vient à notre rencontre en Jésus de Nazareth. Il nous accorde le pardon pour nos fautes alors que nous étions ses adversaires. Et je voulais travailler justement avec vous sur comment est-ce que il y a ces deux choses qu'on connaît tous, la justice et l'amour, qui s'articulent dans la pensée de Dieu. Je vous pose deux questions rhétoriques un peu. Est-ce que vous êtes aimable? Est-ce que vous méritez qu'on vous aime? Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous ne trichez pas? Est-ce que vous ne louvoyez pas? Est-ce que vous n'avancez pas dans les ténèbres? Est-ce que vos paroles apportent toujours de la lumière? Est-ce que vous ne tirez pas la couverture un petit peu à vous? Êtes-vous aimable et êtes-vous juste? Des grosses questions, hein? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon cœur, elles se frottent. Si je le projette sur quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un mérite que je l'aime? Et est-ce que quelqu'un est juste? Vous allez voir que ça frotte. Les gens qui sont injustes, les gens qui font du mal ou vous font du mal, bah, on les aime pas. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais il ne mérite pas que je l'aime, n'est-ce pas? Alors, quand c'est un proche qui me fait du mal, voilà, la blessure est grande et longue à guérir. Je crois que la plupart d'entre vous, vous avez vécu ça. Vous avez connu ces tensions, ces questions, à la fois envers les autres et à la fois, est-ce que je suis aimable, est-ce que je mérite d'être aimé? Je crois qu'on dépense beaucoup d'énergie à être aimable. Je fréquente quelques ados, des fois, qui, au collège, tout ça, vont vivre des moments où ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour être acceptés, être aimables. Parce que c'est douloureux et difficile. Et voilà que nous grandissons avec... On mélange un peu « je mérite d'être aimé » et « la justice se mérite aussi ». Et puis il y a Jésus qui débarque avec son évangile, là, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah! Et il le justifie. Car Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les ingrats. Et il apporte sa pluie sur les justes et sur les injustes. Et voilà notre mélange, notre beau package là, cohérent, entre amour et justice qui... Ah, ça bloque, ça coince, ça marche plus. Alors, le fait que la justice soit méritante, c'est le plus simple à comprendre pour nous, et je vous rassure, Dieu est d'accord. Ouf. N'est juste que celui qui pratique la justice. Et dans ce sens-là, on ne qualifie de juste quelqu'un qui fait, qui a des comportements, des actes et des paroles justes, une pratique juste. Et là-dessus, le chrétien est limpide comme son Dieu. Même s'il existe des situations complexes, Dieu le dit très clairement à plusieurs endroits dans la Bible, je ne tiens jamais le coupable pour innocent. Dieu pardonne, Dieu a envie de pardonner, Dieu se plaît à pardonner pour restaurer les relations, mais il appelle jamais un coupable innocent. D'ailleurs, le pardon vient sur une faute. On ne pardonne pas un bienfait. Oh, tu m'as offert un bouquet de fleurs, je te pardonne. Non. On pardonne pas un bien, on pardonne une faute. Le pardon ne vient que quand il y a une faute. Et dans ce sens-là, nous sommes aussi appelés à refléter Dieu, à ne pas traiter le coupable pour innocent, sans lui refuser le pardon s'il se repent. Mais la justice se mérite. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne pouvons pas vivre avec Dieu, puisque la justice de Dieu est totale, personne ne peut prétendre au titre de juste devant lui. Personne ne peut le mériter. Alors Dieu le sait et il offre une solution à ce problème en Jésus à la croix pour nous pardonner. Mais ça, je pense que vous l'avez tous compris. Beaucoup. Non, le plus compliqué, c'est d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent, non? Et de faire du bien à ceux qui nous persécutent parce que Dieu fait pareil. On vit dans un monde brisé, rempli de mal, d'injustice et de souffrance. Et dans ce monde, nous vivons un paradoxe puissant. D'accord? On a une soif en nous, je pense que vous avez une soif en vous, d'être aimé sans condition. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez jamais à mériter l'amour des autres, et particulièrement de ceux qui vous sont proches. Si certains d'entre vous ont connu cet amour à condition que, si certains d'entre vous ont connu ce que c'est que de vivre avec des proches, peut-être des parents, qui mesurent et pèsent les onces d'amour qu'ils nous donnent, qui nous tiennent par là, parce que quelque part on fait tout ce qu'ils veulent parce qu'on a besoin de cet amour. Vous savez à quel point vivre avec un amour inconditionnel, c'est une aspiration profonde du cœur. Mais en même temps, notre monde est brisé et il y a des gens qui nous veulent du mal autour de nous. Alors nous conditionnons notre amour. Et voilà les deux réalités qu'on vit en nous. Alors, je parle d'amour, je parle pas... Il y a une palette de nuances. Hein. C'est pas que de l'amitié profonde, sincère, mon pote depuis 30 ans. Non, ça peut passer de l'amour filial à l'amour du couple, à la fraternité, à la bienveillance. En fait, si je dois définir le minimum, quand Dieu nous dit « bénis ton ennemi », qu'est-ce qu'il attend ? En fait, nous aspirons à pouvoir être nous-mêmes, sans peur que ce que nous sommes attire de l'hostilité, de la violence, du rejet, du mépris, de l'humiliation, de la moquerie, de la haine. Une sorte de paix, de shalom, où ma dignité, ma responsabilité, ma liberté, ma légitimité ne sont pas questionnées, négociées, relativisées, malmenées, bafouées. Et en préparant cette prédication, c'est ce que je découvre, c'est que le Dieu chrétien, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il fait. Il accorde son shalom à tous, sans qu'il soit question de mérite. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Si la justice de Dieu se mérite, cet amour, dans le sens du shalom que je décris, ne l'est pas. Et lorsque le Jésus nous appelle à bénir ceux qui nous maudissent ou à faire du bien à ceux qui nous persécutent, c'est ce shalom qui nous appelle à offrir. Mais comme il nous est difficile de l'accorder aux méchants, à l'injuste, aux tricheurs, sans avoir l'impression de cautionner ce qu'il ou elle fait. Mais Dieu nous montre en cela que ce shalom, cette bienveillance qu'il offre, puisqu'elle n'est pas fondée sur le mérite, c'est pas une caution. Jésus va manger chez des péagers, des collecteurs d'impôts qui piquaient de l'argent, et Jésus va manger chez des pharisiens, des légalistes religieux qui dominaient les autres. Et le fait qu'il aille manger chez l'un ou chez l'autre n'était pas une caution qu'il apportait. La démarche est fondée sur ce qu'il fait lui, un Dieu d'amour, ce qu'il est lui, un Dieu d'amour. Et comme le dit Jésus, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes appelés à manifester ce shalom, cette paix, cet amour paisible envers tous, sans qu'il y ait question de mérite. Alors retenez ceci. Oui, la justice de Dieu se mérite, et c'est pour ça que pour que nous puissions la voir, Christ est mort sur la croix. Mais dans la pensée de Dieu, l'amour, cette bienveillance qu'il nous appelle à vivre les uns envers les autres, ne rentre pas dans les catégories du mérite. Si vous vous posez la question « Est-ce que je mérite l'amour de Dieu ?», c'est pas la réponse « est oui », c'est une fausse question. C'est une fausse question. Vous ne méritez pas l'amour de Dieu parce que l'amour ne se mérite pas. En fait, si vous réfléchissez, Dieu vous a créé, nous a créé pour vivre avec de l'amour. Ouais. C'est, je prends une plante verte, ok, je vais à Jardiland, j'achète une plante verte et je la pose chez moi. Si je prends une plante verte chez moi et que je veux qu'elle vive, qu'est-ce que je vais devoir faire? Hein? L'arroser, merci. Parce qu'une plante verte, pour vivre, elle a besoin de quoi? D'eau. Puis elle est là chez moi, puis après, bon. Alors, est-ce qu'elle mérite de l'eau? Mais tu t'es engagé. Tu l'as prise chez toi. Pour qu'elle vive. À moins que tu l'aies prise pour qu'elle meure. Mais si tu l'as prise pour avoir une plante verte, tu t'es implicitement engagé à l'arroser. T'es d'accord avec ça? Parce qu'elle a besoin d'eau pour vivre. Mais en fait, on a besoin d'amour pour vivre. Et si Dieu nous met au monde, exactement comme moi je prends cette plante verte et tacitement je m'engage à l'arroser, d'accord? Dieu vous accueille, vous rencontre et implicitement il s'engage à vous arroser aussi. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Sa justice, oui. Mais pas son amour. Recevez-le pour vous d'abord. Pour vous d'abord, comme une promesse qui libère. Prochaine fois que vous levez les yeux de votre cœur vers le ciel en vous disant « Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi ?» Hein ? Moi, ça m'arrive. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Ça, c'est le côté chouette. Côté plus confrontant, c'est que si je ne mérite pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu ne se mérite pas, en fait, parce que dans la pensée de Dieu, l'amour ne se mérite pas, envers les autres aussi, je dis pas de devenir le meilleur copain de tout le monde et de leur filer des chèques et puis de venir leur faire la vaisselle chez eux. Je dis respecter leur liberté, respecter leur dignité, respecter leur responsabilité, parce qu'ils sont des créatures à l'image de Dieu. Eh ben, ça se mérite pas non plus. On voit des fois des questions, est-ce qu'un terroriste est encore un humain? Est-ce qu'il a les mêmes droits de l'homme? Ou est-ce qu'il est sorti du champ des droits de l'homme? Est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec lui? Parce que, de toute façon, c'est qu'un sale terroriste. Moi, quand j'étais jeune et que je jouais à des jeux vidéo, il y avait des jeux où, voilà, on avait le droit de tirer, mais les adversaires, c'était les nazis. Parce que les nazis, on a le droit. Ils sont plus vraiment humains. Tous les humains ne doivent pas mériter qu'on respecte leur liberté, qu'on respecte leur dignité, qu'on respecte leur responsabilité et leur légitimité. Mais c'est donné gratuitement, sans mérite. C'est la base de l'amour. Et souvenez-vous que si vous êtes appelé à le donner aux autres, au nom de Dieu, cela veut dire qu'ils n'ont pas le droit de vous le prendre non plus. Ni votre dignité, ni votre liberté, ni votre responsabilité. Apprenons donc à aimer comme lui nous a aimés. Amen.